Christina, soyez bienvenue avec Leïla Kadoboudadi, Morgane Cadignan, c'est vous ? Alexis Le Rossignol, Tom Villain, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos Morgan. Invités aujourd'hui, Mich Teller et Monsieur José Garcia.
Ah, ça va bien.
José !
Nous allons.
Garcia,
c'est vrai qu'il est beau, José.
José, oui.
José est beau, on le dit pas assez souvent.
José,
mais Neil José est beau.
José. José Garcia, il est... Comment tu dirais, toi ? Parce que toi, tu as l'accent tonique, tu l'as bien.
José.
José.
Mais en espagnol, José. Tous les José, on les appelle Pepe.
Pourquoi ?
C'est le surnom qu'on leur donne.
Ah, diminutif, quoi.
Diminutif,
ouais. Okay. Okay,
mais ce qui diminue de rien du tout, puisqu'on
casse. Tu penses que si je dis Pepe Garcia, il va bien le prendre ? Je suis pas sûr.
Mais c'est quelqu'un d'autre, surtout.
Et...
Oui, hein, je crois.
Oui,
d'accord. Oui, pas
Garcia,
journaliste, geek, techno.
Ouais.
C'est ça. Hein.
Ouais.
Il y a Pepe le putois, mais Pepe Garcia, je crois.
Il y a une personnalité.
Bah, si vous n'avez pas de culture, Nagui aussi, c'est pas notre faute. Hein, y a un moment,
oh, je rêve, ok. Fin du CDD de Tom Villa. Merci, Tom. Bientôt, nous allons continuer.
Ah, bah déjà, j'avais un contrat, je le savais même pas en plus. Ah, super.
Putain, je suis jaloux, quoi.
On va parler de cette nouvelle série sur Prime Video qui s'appelle Totem. Qui est absolument passionnante d'espionnage avec José Garcia et Nils Schneider qui sont nos invités. On va donc faire un blind test. Devinez déjà qui chante ça. Ah, ton micro est fermé, Morgane. C'est très gênant pour jouer. Mais
oui, mais j'ai retiré le câble.
Oui.
Je sens tes yeux. Juliette Armanet.
Très bien. À la guerre. Comme à l'amour.
La guerre comme à l'amour.
Ouais, okay.
Guerre.
Chante ça.
Leïla, Frost ?
Non, ça pourrait. Ceci dit, c'est un bon indice parce que le guitariste non, a joué avec.
Voilà, l'attendu, il saurait. Il aurait la réponse.
Leïla,
Johnny.
Non.
Alexis.
C'est
Johnny. Johnny.
Non, sur le cri.
Et c'est pas. C'est un Johnny très énervé. Hein.
Ouais.
Ah ouais. Ah
ouais, Johnny,
c'est ce qu'on me dit. On me dit Leïla a fait une Leïla.
Non, ouais. J'ai crié Leïla.
Oui,
c'est ça.
Oui, pour préempter le.
Mais si, j'avais la réponse, c'est dingue. Est-ce que ce soit JB ? Non, mais attends, on va avoir des problèmes en régie. Hein, je vous le
Leïla
dis.
Au supermarché,
ouais,
on verra ça.
Les garçons. Mmh.
Son enfant prend faire la queue, tu sais, pour prendre une place.
Déjà, tu parles pas de ma progéniture comme ça. Alors, on se connaît pas, alors tu te détends.
Attention.
Daniel.
Oui.
Ça sera Aznavour.
Est-ce que tu veux dire quelque chose, Leïla ?
Non.
Ok, c'est Aznavour.
Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent.
Et pourtant, ça s'appelle l'amour et la guerre.
Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer.
Qui chante ça ? Ça aussi, Tanguy, sur le
trône.
Oui, Alexis. Oui.
Ça sent la Bretagne.
Totalement, Tanguy. Totalement.
C'est une très belle chanson.
Faut qu'on se tienne les petits doigts, là.
Ou pas.
Triade.
Et le thème guerre, c'est pour guerre froide.
Exactement. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de rappeler le thème.
Non, c'est parce que ça avait été oublié.
Double point.
Allez, on donne un point au petit Danny.
Merci.
Qui chante ?
Depuis que
l'homme
c'est déjà, c'est Daniel. Daniel était un royaume.
Morgane, c'est toi.
Moi, Brassens.
Attendez, je me recoiffe.
Ça va, Zizi, j'en viens.
Et je pose mon cigario.
I wish.
Qui chante ça ?
Compagnie Créole.
Ah oui ?
Non.
Boulzy ?
Non.
Ça dit ah oui, je dis Boulzy.
C'est moche.
Tom, non,
Alexis.
Pardon ?
Ah oui, j'allais dire Lavilliers, donc non.
Non.
Je connais...
Marie, c'est... non, bah... Ah. Okay. C'est Kacha Fakoli ?
Non.
Ah, Alexis, Alpha Blondie.
Exactement.
Oh là là !
À chaque fois, je trouve trio, trial...
Alpha Blondie avec guerre civile. Attention, ça va être très, très, très dur, très sérieux. Il y a 2 points pour Daniel, 2 pour Morgane, 2 pour Alexis. Tout se joue là-dessus. Qui chante ? Il y a forcément guerre dans le titre.
Partout c'est la guerre.
Oh ouais.
Bravo.
Énorme.
Il est jeune à l'intérieur.
Pas sur la guerre.
Mais c'est vieux, non ?
Il est très.
Ouais, c'est vieux.
Oui, c'est très.
C'est quoi ? C'est 2010,
un peu rue.
Victoire de Daniel Morin. Merci d'accueillir José Garcia.
Pépé. Oui, il y a une grande question.
Avec Nabil.
Alexis, vas-y, explique.
J'affirme.
Non. Que...
Détends-toi.
Que les gens qui s'appellent José en Espagne, on les surnomme Pépé.
Oui, absolument. Voilà. Non, c'est affirmé. Et ouais.
Parce que je dis, non, si j'appelle José Pépé, il va prendre le prendre.
Ah, pas du tout, non. Pépé. Ouais,
c'est affectif.
Si vous rentrez dans un bar, vous faites Pépé, il y a la moitié du bar qui se retrouve. Si vous voulez que l'autre moitié, vous faites Manolo.
Très bien, bienvenue dans l'émission des clichés. On est,
pas du tout.
On est ensemble jusqu'à.
C'est pas des clichés. C'est allez-y,
monsieur.
Essayez de rentrer dans un bar.
Je voulais vous dire tout le bien que je pensais de Totem, cette série que vous avez tournée aux côtés de Nils Haristrup.
Schneider.
Schneider,
pardon.
Oh là là.
C'est mal parti. Il a quelques années de moins.
Mais cette série, le bureau des légendes, là, c'est incroyable.
Ah, l'auteur vient du bureau des légendes.
Lambert Wilson, Anna Girardot, Vera Kolesnikova, entre autres, dans la période de la guerre froide, justement, où vous êtes un agent français qui va chaperonner un scientifique français joué par Nils Schneider qui est justement, comment on va dire, forcé, il n'y a pas d'autre terme, dès le premier épisode, je ne spoil rien, c'est dès le premier épisode, il est forcé
à espionner. Vous êtes l'homme de
terrain. Je suis l'homme de terrain. Non, en fait, c'est un chaperon qui travaille pour la CIA. En fait, je suis français, mais pendant la guerre, j'étais pas avec le général de Gaulle, voyez-vous. J'étais avec le général Giraud, très sympa. Il fait ses retours d'ailleurs prochainement.
Il en tournait là.
On s'en rendait dans pas longtemps. Et donc en fait, il chaperonne en fait des physiciens, des gens qui font vraiment de la recherche spatiale pour aller collecter des infos du côté soviétique. Et c'est tout ce qui est vraiment dans cette série est vraiment documenté historiquement vrai.
Tout est étayé, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des scientifiques français qui ont été pris par les renseignements généraux pour être envoyés, contactés. C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Fou. Et c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'on a eu le Concorde, qu'on a eu les lancements de fusées jusqu'à encore aujourd'hui.
Le Concorde, c'est pas nous. C'est l'espionnage.
Hein ?
C'est grâce à...
Oh, ben on va pas savoir qui a fait quoi. Écoutez, le Concorde, tout le monde était content.
Ceci, il y avait un avion qui ressemblait au Concorde. C'est ça, le Tupolev aussi, qui ne vole plus non plus.
Mais il vole mal.
Il va jusqu'en Ukraine.
c'est tout.
Alors, il faut dire qu'il y a énormément de suspense. Moi, je voudrais qu'on revienne au résultat, en tout cas, qui donne le sentiment de voir un film et pas une série avec tout le respect que je dois au diffuseur, quel que soit le diffuseur d'ailleurs. Mais on a un sentiment de moyens, de production, de casting déjà, mais aussi d'effets spéciaux et d'un travail dingue. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, ou c'est vraiment le rendu en prod qui nous fait dire ça ?
En fait, vous savez, quelquefois, il y a des bonnes alchimies, et là, il y a en plus la direction artistique. En fait, il y a Jérôme Salle, qui est un très très bon réalisateur de films, qui a fait Cousteau, qui a fait beaucoup de films vraiment très élégants, qui a été un peu le directeur artistique avec Frédéric Jardin. Enfin, il y a trois réalisateurs. Et
qui se sont relayés. Qui était un peu le directeur de collection, tout ça.
Voilà, et qui viennent en fait de plein d'univers différents.
Okay.
Qui viennent du cinéma d'auteur, ou qui viennent du film beaucoup plus fantastique, ou voilà. Plus Jérôme Salle, qui a tenu avec Gaumont justement la maîtrise, si vous voulez, du projet de A à Z sans rien lâcher, et la puissance de feu d'Amazon avec l'envie et le désir, de créer quelque chose, qui soit français et qui en même temps ait une résonance internationale.
Donc la série est réalisée par Jérôme Salle, Antoine Blossier et Frédéric Jardin, trois réalisateurs en alternance, et produite par Isabelle de Georges et Arnaud de Crémier, déjà à qui on peut faire de vrais compliments.
Oui, parce que j'imagine que le script doit être hyper enthousiasmant, mais on peut craindre le résultat sur un projet comme celui-ci. Ouais.
Écoutez, oui et non, parce qu'en fait, le script fait déjà que vous êtes vraiment plongé dedans. Ouais. En fait, ce qu'il y a de formidable, c'est que si c'était une série, américaine, on aurait tout de suite beaucoup d'explosions, beaucoup de combats, beaucoup de choses comme ça. Là, on est carrément dans la French Touch, c'est-à-dire ce qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire la pression psychologique, l'ambiance, des personnages qui sont celui de Vera et de Nils, deux personnages qui sont d'une beauté, parce qu'ils sont d'un romanesque. En fait, ils sont chacun, elle est professeure de piano, et elle se fait attraper par le KGB, et le pauvre Nils Schneider, on l'attrape le SDEC par Lambert Wilson, et nous aussi la CIA, on les broie ces gens-là, alors et on les envoie.
Il
est papa, il vit avec Anna Girardot, ils ont des enfants, tout va bien. Son papa lui-même a déjà un passé délicat, on va dire, avec l'espionnage, ça c'est à découvrir également. Mais lorsqu'il va rencontrer cette jeune femme, en fait, il la rencontre sans, au début, savoir quelle est la fille du scientifique avec lequel il doit rentrer en communication pour piquer des plans.
Vous savez, c'est une époque où en fait il y a deux idéologies qui séparent cette planète, Et en fait, toutes les personnes, plus ou moins, qui étaient scientifiques ou qui étaient, par exemple, du Parti communiste ou qui étaient, ont toujours été approchées d'une manière ou d'une autre. Si vous étiez diplomate américain, vous étiez approché par la CIA d'une manière ou d'une autre. Et si vous étiez, je sais pas, physicien ou mathématicien et que vous alliez de l'autre côté du mur
de Berlin
et que vous alliez en Europe et tout ça, vous étiez forcément approché par le KGB ou la Stasi.
Et mais même il y a les journalistes, l'affaire là qui est révélée, le journaliste du Canard enchaîné qui aurait été un barbouze dans les pays de l'Est, tout récemment. Donc ça touchait pas que les scientifiques.
Ça touchait tous ceux qui avaient moyen de rentrer en contact avec des gens intéressants et de récupérer des informations par le biais humain, mais il y a aussi des écoutes, des micros, il y a des
choses incroyables. C'est-à-dire que ce qui est formidable, vous savez, moi j'adore cette série qui s'appelle les Peaky Blinders parce que je trouve que la période historique à laquelle passe ce moment-là,
la mafia, ouais, sur les docks.
Et ouais, et puis la période, c'est des gens qui sortent de la guerre de 14 qui ont vu des choses absolument terribles, qui n'ont plus peur de rien. Et là, on est en 65, c'est des gens qui sortent aussi de la guerre, qui n'ont peur de rien, qui ont l'habitude de vraiment de se confronter à des... Voilà, moi je fais un type qui a toujours fait la guerre, finalement, qui est un espèce de vétéran.
Mais il est pas... Pardon, c'est pas non plus un barbouze, il est pas prêt à sauter sur la première bombe, quoi. Il est au contraire...
Ah, quand même, au début...
Non, je sors un moment avec une fille, mais sans plus.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même une tension, vous êtes là en disant, il faut faire gaffe, ne regarde personne, ne parle à personne, on se connaît pas.
C'est l'antithèse.
Sans spoiler, il y a même un moment où Niels, le personnage de Niels Schneider, prend une initiative qui va à l'encontre de ce que lui, de ce que son ange protecteur aurait voulu faire. Et là, il commence à s'inquiéter pour sa sécurité, justement.
Parce que c'est super dangereux, parce qu'en fait, tout le monde est surveillé. Dès qu'on passe du côté de Berlin-Est, tout le monde est surveillé. C'est super. C'est ça qui est... En fait, la série n'est pas anxiogène. C'est ça qui est formidable aussi, c'est que la vision de Jérôme Salle... moi, j'avais peur qu'on se retrouve dans des choses extrêmement glauques avec une vision très occidentale de la partie soviétique. Et en fait, la partie soviétique, il s'est passé aussi des choses assez extraordinaires. Il y avait des gens qui avaient une très belle vie, qui faisaient des choses super passionnantes et tout.
Et donc, de très bons scientifiques.
Et de très bons scientifiques. Et les endroits n'étaient pas forcément glauques. Ce qui fait que, en fait, on est dans des décors qui sont impressionnants parce que, voilà, c'est cette époque aussi de 1965 qui est austère. Mais il y a une vision quand même du mur.
Moi, j'ai adoré les hôtels Art déco, les constitution avec les vieilles bagnoles et tout, mais c'est génial, non, c'est super bien
le
fait.
Le vide qu'il y a dans les décors.
Et la taille.
Totem, c'est Amazon, c'est Amazon Original sur Prime Video. Voilà. Pour être précis, on va continuer de parler évidemment et d'évoquer cette série avec vous, mais d'abord sachez que Morgane Cadignan ne vous aime pas.
Bizarrement.
Mais non, Pépé, elle ne vous aime pas, Pépé.
José Garcia, je vous aime pas. Ah, on part sur un petit hommage à Macha Béranger ce matin. Vous venez nous parler de la série Totem. Et je suis très déçue, je croyais que c'était le spin-off documentaire sur la vie des totems d'Unité de Koh-Lanta. Entre deux tournages, genre Révélation, Retour à l'anonymat, Attouchement incessant de Denis Brogniart pendant les feux de camp. Et pas du tout. Totem, c'est l'histoire de Francis, un ingénieur français contraint de s'improviser espion. C'est drôle comme tournure, ça, s'improviser espion. Moi, j'en ai un peu marre d'être là le matin. Je vais m'improviser espionne, viens. Tu sais, je sais pas si je serais pas trop spontanée, je pense, comme personne pour être espionne. Je crois que j'irai à la facilité, j'irai faire un petit tour en Ukraine, voir Volodymyr Zelensky, le président, en disant « Bon, écoute, Poutine dit qu'il était désolé. Voilà. Il a abusé, mais tu sais comment il est. Allez, sois le plus intelligent des deux. Viens dîner. Il a fait des paritas parce qu'il sait que t'aimes bien. Après, je prends un vol pour le Kremlin. Je vais voir Poutine. Écoute, Volodymyr voudrait bien garder l'Ukraine, mais en échange, il vous donne la Biélorussie. Franchement, ça t'arrange. Faudra juste enlever Biélo. On gagne du temps. Allez, je fais des courses. Comment on dit Holden Passon en russe? Moi, j'ai des promesses à tenir. Et c'est fait. Le personnage de Niels Schneider dans la série vit sa vie d'espion débutant jusqu'au moment où il est un peu désarçonné par une pianiste, elle-même surveillée par le KGB. Alors, comment savoir si la personne pour qui tu nourris des sentiments est sincère ou guidée par des intérêts géopolitiques? Putain, les amis, déjà l'amour, c'est compliqué, hors guerre froide. Mais alors là, si tu rajoutes des couches, tu m'oublies, quoi. Franchement, savoir si la personne avec qui tu es est guidée par des intérêts politiques, moi j'essaie déjà de savoir si je suis guidée par des intérêts... Point. Parfois, je regarde mon mec en me disant, je sais pas si je l'aime vraiment ou si c'est juste agréable d'avoir une présence chaude, quoi.
Ah bon?
Un mari, c'est avant tout une bouillotte que t'as pas besoin de remplir. L'inverse n'étant pas vrai. Et je suis pas fière de cette blague, mais par contre, pour un titre, il est trop bien, pardon.
C'est hyper sale, j'adore.
Mais non, mais attendez, ça va, les hommes, quoi. Et vas-y que ça se plaint, genre, ah non, t'as les pieds froids. Gars, on accouche des êtres humains. Ouais. Mes pieds, ils pourraient être faits en neige, c'est que vrai. Tu te tais. Non, mais c'est fou. tout. Ça devient compliqué, les choses de l'amour à notre époque. C'est dur de faire le tri dans les sentiments. Moi, je ressens des trucs pour Daniel Morin. Je sais pas si c'est poubelle jaune ou poubelle bleue. Puis être amoureux, c'est un grand mot. Parfois, t'es avec quelqu'un juste par pragmatisme. Franchement, j'ai un lit de place. Et c'est dommage de gâcher en dormant toute seule. Dans Paris, c'est vraiment con de niquer un mètre carré. Moi, je suis très bien seule. Hein. Je fais juste ça pour le marché de l'immobilier. Vous imaginez? Attendez, mais remerciez-moi. Si tout le monde se met à dormir tout seul, dans 10 ans, on achète des apparts à poteau combo, en disant, bah attends, c'est presque Paris, c'est qu'à 55 minutes de la gare.
C'est presque non, Paris.
En y repensant, les gars, j'ai été avec des mecs, je me demande s'ils étaient pas espions, franchement. Tu t'embrouilles dans tes réponses, c'est pas cohérent, voyages beaucoup, t'as un faux nom. À un moment, soit tu me trompes, soit tu bosses pour le KGV. Et je me suis vue à poil, c'est forcément un coup des Russes. Et je dis pas que c'est pas bien d'être sous une fausse identité, mais peut-être que ta fausse identité, ça peut être d'être amoureux de moi, pour une fois. Ça serait un peu original, ça, comme légende, de se faire passer pour un mec sympa et fidèle. Voilà. Et nous, ça nous fera des vacances.
Merci!
Bon,
bon,
les gars! Sinon, ça va bien les billets pour l'hiver. Oh là là.
Elle a vidé le sac.
Elle a vidé son sac.
Oui, c'est pas ce que Marie,
gros sac.
Non, mais ce qu'il faut préciser d'ailleurs, c'est que dans la série Totem, on parle José Garcia de évidemment du suspense, on parle de la tension psychologique, on parle aussi de la condition des femmes, parce que il y a une situation aussi parallèle, il y a des intrigues entre guillemets parallèles, oui, notamment le problème de l'avortement qui est posé dès le premier épisode. D'ailleurs, je crois
la cousine qui vient se présenter. On montre à quel point Anna Girardot, qui est la femme de Denis Schneider dans le film. On voit un peu son quotidien. C'est déjà une femme active, ce qui pour l'époque n'est pas évident. Et on voit à quoi elle se confronte en permanence. C'est-à-dire que même aller chercher de l'argent sur le compte de son mari.
On n'a pas le droit d'avoir un compte en banque, voilà. De retirer toute seule.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas si longtemps.
C'est fou.
Et que tout ce qu'on a gagné dans ce nombre d'années, dans les 30 glorieuses, voilà, il ne faut surtout pas le perdre maintenant.
Oui, mais à l'époque, au moins, c'était clair, c'était réglé.
C'était clair, oui.
avoir cette série, on se dit qu'elle est produite et c'est un spectacle digne du cinéma. Et d'ailleurs, vous l'avez vécu en projection au Festival de Cannes, ce qui est quand même très rare pour des séries.
Oui, mais vous savez, quand
les épisodes ont été projetés au Festival de Cannes.
À Cannes série, et en fait, ils se voient très très bien sur grand écran. C'est ça qui est. C'est vrai. C'est dommage. Il y a des moments où, franchement, c'est beaucoup plus sublime en grand écran, mais on sait jamais. Je sais pas ce qui va se passer. On est en pleine évolution maintenant. Si ça se trouve, il y aura des soirées spéciales de séries.
Est-ce que quand même vous avez senti, on dit que c'est un décor digne du cinéma, que c'est un suspense, que c'est dense, que c'est hyper bien produit, très bien joué, un casting de ouf, mais est-ce que vous, dans le rythme de tournage, vous sentez une différence? Parce qu'il faut quand même une efficacité de 6-7 minutes par jour et on n'est pas comme au cinéma où on a le temps.
Moi, j'adore. Non, justement, le temps, c'était le temps de... Il y a des moments où on a pris le temps parce qu'il faut trouver des situations. Et par exemple, on s'est battu parce qu'on l'a fait vraiment dans des conditions très, très particulières. C'était le deuxième confinement en France. Prague, la ville où on tournait, était le pays qui avait le plus de cas de Covid en Europe.
Tout a été tourné à Prague, même les ailes de Montmartre.
Non, ça a été tourné en France.
C'est pas constitution de Montmartre.
Ça, c'était à Mexico.
Non, justement, parce que justement, tout est à l'écran et après, on est parti à Almeria. Mais en fait, il y avait des problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait des quarantaines. On travaille avec 5 nationalités. Ça aussi, c'est le plaisir total de tourner en Europe avec des acteurs européens. On a des acteurs russes. Vera, qui est une sublime actrice, mais il y a aussi son père, qui est joué par Alexei.
Et pardon, Vera ne parle que russe?
Non, elle parle français, elle parle anglais, on jouait en anglais. Nous, on joue, comme je suis un type de la CIA, on travaille avec des acteurs américains et on parle en anglais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que on est avec Lambert Wilson en train de se parler en anglais. On aurait dit une scène, you're a big moustache, but you're not French. Bah, yes, I am.
Non, mais. Lambert,
il parle très, très bien. Merci. Non, mais on parle, voilà, on a des scènes, on parle parce qu'on est avec des
Frenchies. Vous faisiez les Frenchies.
On parle les Frenchies et on parle, lui, il a des scènes en russe, on a des scènes avec en allemand, on parle en tchèque.
Pardon, quand on joue comme ça et quand on donne, vous ne parlez pas le russe, vous comprenez l'anglais, l'espagnol. Tu
m'as очень симпатичный. Мой брат работает в колхозе.
Ça, c'est le talent de José de nous faire croire qu'il
sait
parler.
Mon frère travaille dans un colcose. C'est une phrase que j'ai appris en 1965. Maintenant, c'est très difficile à placer.
Ça a moins d'intérêt.
Tu m'es très sympathique. Tu m'as очень симпатичный. Ça commence bien. Мой брат работает в колхозе.
Et comment jouer l'écoute, comment jouer la réaction quand une phrase est dite, quand un dialogue est fait en russe face à un français, qu'il sera post-synchronisé ensuite et que tout ça sera doublé. Comment jouer quand on ne sait pas ce que l'autre dit? Enfin, on sait ce qu'il dit, mais on ne sait pas à quel moment tel mot est prononcé.
Vous savez, les acteurs, c'est comme les musiciens. quand vous voyez un très bon musicien et que vous aimez jouer, ça se passe très très facilement. Dans le regard, dans les intentions, vous comprenez tout de suite ce qu'il y a à jouer.
Pardon, le musicien, il a la note en commun, donc c'est ça leur...
On a la note en commun, quand on sent que le type va terminer et qu'il y a une phrase ou que quelqu'un... Vous savez, c'est tout est dans le regard, surtout. Et si vous voyez un type rentrer en russe et qui vous dit vous savez que vous allez prendre une dérouillée. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la phrase pour savoir que ça va mal se passer.
Alors je tiens à rassurer tout le monde, on comprend très bien la série, hein, parce que là on
peut paniquer.
C'est pas du tout, mais c'est très fluide.
Totalement le genre de série que tu adores.
Oh là là, mais j'adore. Il y a que Nagui et moi qui avons aimé, je sais pas pourquoi. Les autres ont
dit c'est
pas vrai.
Non, mais
déjà au départ, on est client pour tout ce genre de série.
Clairement.
Mais là, on a trouvé ça, mais vraiment formidable.
Mais moi j'étais impressionné, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'étais impressionné par le niveau mis dès le début et maintenu, c'est-à-dire que c'est pas non plus des effets spéciaux avec de la grosse musique, une typo bouleversante.
Il y a un chien qui explose.
Il y a toute une partie, la première scène, oui, d'ailleurs qui est très drôle, parce que pour l'anecdote, en fait je dois faire traverser un scientifique du côté leur sortir de RDA, et en fait je devais avoir une corde, je ne savais pas, mais en fait les types, quand ils découpaient les grillages pour passer derrière une frontière, ils avaient des cordes de 15 mètres, 20 mètres de long, avec des explosifs, et ils jetaient la corde, et ils allumaient pour faire sauter tout un passage, donc la première scène c'est ça.
Du grillage, pour déchirer le grillage.
Pour exploser tout le passage, parce qu'il y avait des mines. Je ne savais pas, mais c'est un truc de la résistance, voilà. Et donc, je suis arrivé, et les mecs m'ont sorti 20 mètres de corde. Ça a l'air très cool, 20 mètres de corde avec des explosifs au bout. Déjà, ça pèse un âne mort, et après, ils arrivent, et dans un énorme hangar, comme ça, je suis arrivé, j'ai commencé à envoyer la corde. Et j'ai compris que la corde, elle s'en mêlait, c'était pourri et machin. Donc le samedi et le dimanche entier.
T'as passé ta journée à répéter.
Ouais, alors il y a l'équipe qui prend le petit-déj sur le côté droit, mais tu les vois pas. Ils sont tous comme ça devant une verrière, et ils voient un pauvre débile dans la neige, en train de jeter une corde, et tout le monde fait ouais! Et tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais pendant des matinées entières. Voilà, mais bon.
Le travail paye,
ça marche bien, je peux vous dire que dès le début. Voilà. Qui tient la maison?
Très bon jeté.
Ah, ouais, très beau jeté.
Il tient la corde. Ça s'appelle Totem, donc, et toute la série, genre les 8 épisodes sont...
8.
8
ouais, non,
et t'en vas voir. Tu vas voir la fin.
Ouais, ça monte très très fort.
Non, c'est fort, et c'est sur Prime Vidéo. Voici Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Vous m'avez manqué.
Qu'est-ce que c'est?
Valérie Pécresse,
c'est une imitation.
Ça va bien, vous allez bien?
Très bien.
Alors j'arrive un peu après la bataille, mais c'était la Saint-Valentin en début de semaine. Et je l'ai fêté. Oui.
Toi?
Avec ma conjointe.
Oh, génial.
Comme on dit quand on a passé 35 ans et qu'on va se la garder derrière l'oreille. Alors j'ai commencé par aller acheter des roses chez le fleuriste. Bon, ben il y avait des bouquets préparés, j'ai dit je vais prendre ça. 5 roses, 39 euros. Putain, la soirée commençait bien, quoi. J'ai payé machinalement parce qu'il y avait plein d'hommes dans la boutique et qu'on faisait tous pareil, quoi. Mais 39 euros les 5 roses. En plus, les roses écologiquement, c'est la cata. C'est Hugo Clément qui l'a dit. Elles viennent du Kenya ou d'Éthiopie par avion.
C'est vrai.
Elles passent par la Hollande, elles sont pleines de pesticides. Bref, j'aurais dû acheter des tulipes, quoi. Sauf que top des tulipes à la Saint-Valentin, tu passes pour quoi? Pour un crevard, bien sûr. L'année prochaine, je les dessinerai, les roses. Sur du papier recyclé. Mmh. Alors ensuite, on avait rendez-vous au restaurant, parce qu'on a vraiment coché toutes les cases du cliché, quoi. Alors j'arrive, elle m'attendait, coucou, bisous, rose. Oh, c'est pour moi? Non, c'est pour ta sœur, mais je l'ai pas croisée, quoi. Ça, c'est con, mais ça marche toujours.
Oh, oui. Ça va bien.
Après, c'est bien, ils sont bien tous les deux, je trouve.
Après, on entre dans le resto, le serveur arrive, bonsoir, bienvenue, petite coupe de champagne pour les amoureux. Allez, qu'est-ce que tu veux répondre à ça,
hein?
Non, on va prendre un pichet de blanc en 50, s'il vous plaît. Et de l'eau plate. Enfin, en carafe, quoi. Moi, si j'étais dans le marché de l'eau minérale, j'appellerais ma marque En Carafe. Pour tous les gens qui précisent En Carafe, s'il vous plaît. Et voici, monsieur, votre bouteille d'En Carafe. Donc, on est là à boire notre champagne, doucement. À boire notre champagne doucement pour qu'il dure un peu, hein, comme quand t'es en bois de nuit et que tu pinces la paille pour que ça vienne pas trop vite. Et on observe les autres couples. On observe les autres couples, forcément. Aller au resto le jour de la Saint-Valentin, c'est comme prendre une douche entre mecs. Tu jettes un œil à côté, tu compares, c'est humain. Alors t'en as qui s'enlacent comme des vers, tu te demandes s'ils tiendront tout le repas. Il y en a certains qui passent la soirée en tête à tête, mais devant leur téléphone. Quand il y en a un qui va pisser, l'autre s'en rend même pas compte. Il y a des couples qui ont l'air hyper heureux. Là, tu te dis, ceux-là, ils bluffent, c'est pas possible. Et toutes les deux minutes, il y avait des vendeurs de roses qui passaient à 2 euros la rose. Moi, j'étais là, non merci, j'ai déjà... Mais ils étaient où au moment où j'achetais mes roses? Alors, pour ceux qui aiment bien les maths, 5 roses fois 2 euros la rose, ça fait 10 euros.
Ouais.
Et moi, j'ai payé 39 euros les 5 roses. Ça fait 29 euros de différence.
De papier.
Soit presque 30 euros de différence, toujours. Et 30 euros divisé par 2 euros la rose, ça fait 15 roses. J'aurais pu offrir des roses à 3 autres conjointes. Donc, on était là, attablés, le bouquet de roses sur la table, bon. Et à côté de nous, il y avait une fille toute seule. Là, je me dis, elle est seule, mais elle fête quand même la Saint-Valentin. Elle célèbre le fait de s'aimer elle-même, c'est bien. Et c'est tendance sur Insta, quoi. Mais 5 minutes plus tard, il y a un type qui débarque avec un bouquet de roses, mais énorme. Il devait en avoir une centaine, quoi. Et là, il toise tout le monde. Et tous les mecs le regardent, forcément, en lui balançant des noms d'oiseaux dans leur tête. Le pigeon, aigle, albatros, pélican, tout sauf rossignol. Moi, j'ai simplement pensé, quel connard! Et il s'assoit où, à votre avis? Face à la fille, à côté de nous, quoi. Le bouquet était plus grand que la table. Je me suis dit, il va galérer à manger sa pizza, oui. Et parce qu'on était dans une pizzeria. Mais chic, il y avait des olives et tout. J'avais envie de lui dire, c'est beau, mais c'est pas pratique, hein. J'ai dit à ma conjointe, lui, il doit avoir un truc à se reprocher, quoi. Et moi, c'est pas mon cas. Et ouais, elle m'a fait... J'ai cru entendre loser. En plus, il était beau gosse, genre jeune cadre dans la finance, avec un petit costume cintré. Moi, j'avais ma polaire Décathlon. Parfois, j'ai l'impression que les gens élégants, ils ont jamais froid, quoi. Ils gardent jamais leur pyjama sur le pantalon. C'est possible, quoi. Mais on l'a tous fait, ça. Hein. Bon, pas ce matin, parce qu'il faisait bon. Bref, on a fêté la Saint-Valentin. Et c'est pas l'intention qui compte. Si, c'est l'intention qui compte. Ah oui, c'est ça. Et l'important, c'est de participer. Heureusement qu'il nous reste les vieux dictons. Allez, bonne journée, messieurs.
Merci, Alexis. Jean élégant, jamais froid, j'adore.
Excellent.
Ah ouais. Alexis, on te retrouve tous les dimanches au Théâtre La République et à Aix-en-Provence les 23 et 24 février.
Merci bien.
T'en es où du bodybuilding?
Bon, tu vois, je commence par l'équipement.
D'accord, ok, très bien. Justement, vous considérez ce rôle physique, José Garcia, dans Totem? On est dans de l'espionnage, vous avez dit psychologique, mais il y a quand même de l'action, il y a quand même des poursuites, des cascades, explosions.
Il y a des explosions, il y a des bastons, mais en même temps, on n'axe pas sur le côté 2 heures de combat, sur les tirs, c'est pareil. En fait, il y a une brutalité qui est légitime, c'est-à-dire que tout d'un coup, si on tire sur un type, le type tombe à terre et...
Est mort.
On le sent, non mais on le sent, on le sent vraiment, on sent que les autres se planquent, enfin, je veux dire, ce qui est dans la réalité, quoi. Je veux dire, les gens commencent pas à avancer en tirant dans tous les sens. Le premier qui tombe, les autres se barrent en poulet et viennent se mettre à pourvoir un petit peu la situation.
Ce qui est tellement proche de la réalité, absolument.
Et c'est ça qui...
Il y a quand même une histoire d'amour aussi, une histoire d'amour impossible.
Elle est magnifique, cette histoire. Elle est d'un romanesque. En fait, c'est des personnages lambda, très beaux, qui malgré eux, comme ils sont attirés l'un vers l'autre et en même temps broyés par ces deux contre-espionnages et espionnages, traversent les frontières, sont capables d'aller se rechercher à des endroits. Enfin, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'ils sont capables de survoler des situations qui sont extrêmement graves et vraiment difficiles. Mais c'est ce qui ressort, quoi. Ils sont magnifiques, ces deux personnages.
Vous avez déjà été espion dans une série ou au cinéma? C'est déjà un personnage que vous avez incarné?
Non, j'ai jamais été espion. Je repense. Non.
Parce que quand on dit je joue dans un film, je joue dans une série, est-ce qu'on en revient vraiment au jeu d'enfant, au gamin? C'est-à-dire, je joue à être tel ou tel personnage. Et jouer à l'espion, ça reste quand même un kiff de môme, quoi. C'est-à-dire de se planquer, de se cacher, d'écouter, d'observer.
Ce qui est très impressionnant, c'est que nous, quand on est arrivé, le premier temps, on était dans des endroits où justement, j'emmenais Neil Schneider du côté, on était à Checkpoint Charlie. Donc on avait Checkpoint Charlie reconstitué, on traversait. Et là, je vais vous dire. Franchement,
t'as des poils.
On n'emmène pas large.
C'est vrai.
Et après, on rentrait dans des endroits où il y a la Stasi qui est partout en train de surveiller et tout, et on rentre là, dans cette pression. Et franchement, ça se sent dans le film, mais en vrai. C'est des années où il faisait bon vivre à l'extérieur et dans les endroits un peu plus reculés. Ouais.
C'est fou ce qui se passe. Et c'est fou aussi, dès le premier épisode, la manière dont on teste aussi ceux qui ne sont pas des espions pour voir à quel point ils seraient capables
de supporter
un interrogatoire un peu plus violent que d'habitude.
Personne le supporte. De toute façon, les gens parlent au bout d'un moment. La question, c'est de savoir comment on tient.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Mais ce qui est très beau, c'est que, si vous voulez, il y a eu cette période, justement cette période historique, il y a eu un type qui a été un des patrons de la Stasi, qui a créé ce qui est devenu après maintenant James Bond, mais à une époque il y a eu ces types-là qui dérouillaient les gens pour avoir des informations, et puis au bout d'un moment ils ont compris que c'était pas comme ça qu'on avait le plus d'informations, qu'en fait il fallait aller séduire ou aimer, donc ils ont créé des agents Roméo, des types qui allaient se marier
avec des secrétaires qui n'avaient pas de vie.
Ça s'appelait comme ça,
ouais, les agents Roméo, c'est ouais. comme ça qu'est devenu James Bond, quoi. Mmh. Et en fait, c'est des types qui ont vécu. Vous imaginez là, c'est ça qui est formidable avec mon personnage, parce que je vous raconte pas tout. Non. Mais ce sont des personnages qui vivent dans le mensonge et dans le fait de ne pouvoir rien dire à personne en permanence, dans une grande solitude. C'est-à-dire que ces gens-là mentent tout le temps.
Tu vois, tu peux être espionne.
Pour la grande solitude.
Solitude, mensonge.
Les Roméo, c'est un truc de fou. Les gars étaient entraînés à séduire et ils allaient en Allemagne de l'Ouest séduire des nanas qui travaillaient dans les ministères.
Genre une secrétaire
qui n'avait pas de vie. Ouais. Et ils ramassaient tout et ils restaient mariés. Ils se mariaient avec elle et ils passaient 20 ans.
Et après, ils disaient, je suis obligé de te quitter. Je m'en vais si tu veux que je reste. Maintenant, j'ai besoin de renseignements.
Ouais.
Mais non.
Ah, ouais, je savais pas. Ça arrange tout le monde, 20 ans. C'est bien.
Non. C'est long.
C'est long.
Là, en l'occurrence, je veux bien qu'on parle de la beauté intérieure, hein, évidemment, mais il faut dire que Vera Kolesnikova, elle joue très bien du piano. Voilà, et elle est absolument ravissante.
Et on peut comprendre
le trouble de l'homme marié avec Anna Girardot
et Nils Schneider qui n'est pas piqué des.
C'est
magnifique. Ils sont très très beaux tous les deux. Et puis
la scène de rencontre est très belle d'ailleurs. Ah,
ouais. Ouais. Dans les étoiles.
Ouais.
C'est ça. Ouais, c'est dans les étoiles de mémoire. Et ce qui est intéressant aussi dans les séries, contrairement à des films, c'est que on est obligé de maintenir en haleine le téléspectateur et le spectateur, parce que mécaniquement sur des plateformes, sur une tablette, dès l'instant où on est abandonné par l'histoire, où on l'abandonne inversement, on clique et on se dit je vais aller voir une autre série parce que j'accroche pas. Donc en permanence, il faut qu'il y ait des accroches, des rebondissements et des cliffhangers comme on dit, pour retenir le spectateur. Ça, c'est une pression qu'il n'y a pas au cinéma. Au cinéma, on est dans la salle, on se dit
on a du popcorn,
maintenant on a du popcorn. On peut faire une heure et demie et on va pas partir.
Oui, mais cette exigence demande maintenant aux auteurs d'être extrêmement précis sur la qualité de la situation. Vous savez, il y a souvent dans certains films des ventres mous, ce qu'on appelle des moments où, par exemple, on meuble avec des choses et tout. Là, maintenant, si vous voulez, j'ai l'impression que ce groupe d'auteurs, comme Olivier Dujol, qui vient d'ailleurs du Bureau des Légendes, sont très amènes de travailler avec des poules d'auteurs qui sont justement très concentrés sur la qualité.
Ouais.
Et en fait, c'est ça qui est formidable, c'est le mélange. Moi, je trouve qu'on est en train d'arriver à un moment super intéressant dans le cinéma ou tout ce qui est
dans la création et l'écriture.
Oui. C'est dans la création, c'est que on donne le travail avec un cahier des charges à plein de personnes, par exemple à trois réalisateurs avec des univers complètement différents. Donc ça amène quelque chose de complètement différent, parce que même dans le cahier des charges, on travaille sur des émotions, sur une manière d'approcher la caméra.
Ils n'ont pas forcément la même vision, les trois.
C'est ça. Mais par contre, ils ont une sensibilité et elle sert l'histoire en permanence.
Et ils ont une obligation de respecter ce que la série veut porter aussi, d'où l'intérêt de ce fameux directeur de collection, showrunner, celui qui chapeaute tout ça, en disant non, lui c'est un vrai gentil ou il a telle faille, lui c'est un méchant mais ambigu, enfin il faut garder l'esprit de chaque personnage.
Et l'attention, et donc d'avoir des situations qui sont très fortes. Il n'y a pas d'instant où on raconte toujours quelque chose, et ça c'est quand même très important.
Et il y a une originalité, c'est qu'à la fin de chaque épisode, il y a un coming next, à suivre qui arrive aussi.
Ouais, ça, c'est pas tout. Faut que vous ayez envie de le voir. Donc
ça marche.
Ça demande quand même une inventivité.
Nouvelle série d'espionnage sur la guerre froide, donc dans les années 65 à peu près, quand ça se passe. Avec José Garcia, on va en parler jusqu'à 12h30. Et on va surtout parler aussi de la musique, parce qu'elle est présente aussi, cette musique. Il y a une ambiance quand même dans Totem, il faut pas croire. Hein.
Ça me donne la chair de poule.
Il est très beau, cette émission. Ça me donne envie de faire la guerre.
Alors ça, c'est quand on écoute, c'est la phrase de Woody Allen. Quand j'écoute trop son Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Ah, c'est ça.
Allez, parlons de la musique et de celle qu'écoute en l'occurrence José Garcia. Je veux juste préciser que nous allons recevoir une historienne spécialiste de la guerre froide. C'est Isabelle Davion qui nous fait le plaisir de venir aussi nous informer et documenter, et nous apporter un éclaircissement sur cette période. Mais avant Isabelle Davion, parlons de ce que vous écoutiez en 96-98. José Garcia, vous écoutiez évidemment Bon, là, il faut avoir l'image sur une croix, en train de balancer la jambe, à gauche, à droite.
C'est Michael Palin ?
C'est la fin de la vie de Brian. Ils sont tous crucifiés. Et à un moment, le mec est sur la croix. Il dit, mais tu sais, faut voir quand même les choses du bon côté. Et ils chantent tous et ils sont tous crucifiés.
Ça vous a marqué cette scène?
Absolument, parce que je l'ai écouté pendant tout le confinement. Je me suis dit, gardons toujours un peu d'espoir.
Non, mais sans blaguer, est-ce que ce sont des scènes qui marquent un sens de l'humour? C'est-à-dire, quand on voit ça, quand on voit la moquerie de la religion, quand on voit des personnes crucifiées qui disent il y a quand même le bon côté des choses et qui balancent leurs pieds comme des danseuses des Folies Bergères, est-ce que là on se dit, ok, c'est ce genre de vanne que j'aime?
Il faut de la distance. On peut, en fait, on n'est pas en train de se moquer de la religion, on est en train de se moquer de situations qui sont extrêmes et qui à la base sont
voilà,
horribles.
C'est un mec qui est crucifié.
Des mecs qui sont crucifiés et tout le monde siffle. Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est, en fait, c'est l'autodérision et la dérision totale par rapport à la vie.
Oui, mais c'est aussi toucher ce qu'on n'oserait pas toucher normalement, en disant, il y a un minimum de respect, puisque la vie de Brian, c'est la vie d'un faux Jésus, entre guillemets.
Ouais. Un mec qui est né à 150 mètres de
Jésus.
C'est pire. Parce que le mec, il subit ce qu'un voisin, vous savez, qui s'appelle Roger, reçoit le courrier d'un autre Roger qui habite juste à côté, quoi.
Et ça, pour ça, les Anglais, en particulier les Monty Python, sont hyper forts. Ce pas de côté, là.
Ça, c'est l'humour très anglais.
Et 98 pour vous, José Garcia. Vous êtes nommé au César dans la catégorie meilleur espoir masculin pour votre rôle dans La Vérité si je mens, un film La Vérité si je mens, qui a quand même changé la donne considérablement pour toute une partie de ce casting.
Oui. Ah bah totalement.
Ah bah du jour au lendemain. Aucun regret là-dessus, parce que il y a eu des moqueries aussi sur le film. Il y a même des personnes qui estimaient que c'était presque une écriture antisémite, quoi.
Oui. On a eu tout. De toute façon, c'était un film que personne ne voulait voir sortir parce que c'est trouvait ça trop sulfureux, trop
particulier. À la lecture, vous voulez dire l'écriture.
Bah, c'est passé dans toutes les prods de Paris. Je vous dis, vous savez, c'est des films comme ça où quand tout d'un coup vous arrivez comme un jeune chien. Vous arrivez, vous dites oh génial, vous rendez même pas compte de là où vous mettez les pieds. Et après, on s'est rendu compte, très vite, si vous voulez, la communauté juive a commencé à rire, à s'amuser et tout ça. Mais il y avait quand même, on parlait de beaucoup de choses qui étaient délicates, puisqu'on parlait encore d'argent, de choses comme ça. Et il y avait toute une partie de la population qui était plus âgée, qui me disait, José, on reparle encore de cet argent, des juifs, l'argent et tout ça. Et c'est vrai que c'était délicat, mais voilà.
Bah, c'est la force de l'interprétation aussi. C'est-à-dire que lorsque c'est écrit, qu'une vanne est écrite, on peut se dire, elle est un peu lourde.
Ça serait peut-être plus possible aujourd'hui.
Look the ring. Après, ça dépend de la manière dont c'est joué.
Mais, et puis, vous savez, aujourd'hui, on peut tout faire. Le seul problème, c'est l'importance. C'est l'importance que l'on donne à des gens qui sont derrière des avatars. Ouais. C'est ça qui est terrible. Ouais. Je veux dire, on avait ce qu'on avait appelé avant le courrier des lecteurs. Moi, j'ai à Canal, vous pouvez vous imaginer même pas ce qu'on s'est pris sur la tête quand on faisait les personnages. Et on me dit, mais avant, vous étiez tranquille. Non. Avant, on avait Pierre Lescure et Alain Degreff qui nous protégeaient. Et qui disaient, mais moi, j'en ai rien à foutre de votre courrier. Vous n'êtes pas content, vous étiez à la télé.
La grosse différence, José, c'est que là, ils avaient des abonnés, que quoi qu'il arrive, ils savaient que tous les mois, ça tombait sans aucune pression, ni de la publicité, ni de l'audimat. Donc, il y avait une liberté de création.
Oui, mais aujourd'hui, on pourrait aussi l'avoir dans plein d'endroits.
Pardon.
Les sketchs des inconnus, il y en a plein qui passent. On dit que ça passerait pas maintenant, il n'y avait pas d'abonnés.
Je suis désolé. Prime Video, on va être très pragmatique. Prime Video aujourd'hui lance une série et c'est une première création avec j'imagine, ça nous regarde même pas d'ailleurs, mais un gros budget, ça se voit, ça se sent, on est au niveau du cinéma. Si au bout de deux épisodes, les clics font que on se casse, et je suis désolé, mais
pour
les trois auteurs que j'ai fait citer, les réalisateurs aussi, on va moins les appeler.
Ça n'a rien à voir avec les scandales. Là, on parle de l'audience et on parle des scandales. Le courrier des lecteurs, il n'y avait que le mec à la poste à Canal qui était au courant, qui recevait peut-être 500 lettres par jour. Là, aujourd'hui, avec Twitter, on voit 500 lettres.
Je parlais de la liberté de création et de la vanne, parce que Canal, pour y être passé peu de temps d'ailleurs, mais il se moquait de l'audience en disant non. L'important, c'est notre image, c'est ce que l'on véhicule. Donc, peu importe l'audience, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, toute chaîne confondue, que ce soit service public, on va pas se mentir, ou privé, plateforme ou autre, l'important, c'est quel est le résultat, même s'ils ont des abonnés, même s'ils peuvent dire, nous, on est Amazon, on n'a rien à foutre de savoir si quelqu'un va décliquer, va se barrer ou n'importe quoi.
Parce que là, ça serait de l'irrévérence, mais trop mal placé, c'est-à-dire que là, ça ferait que les gens fuient. Mais nous, l'idée, c'est de faire quelque chose qui fasse marrer les gens, et c'est, en fait, ça reste toujours dans cette idée-là, c'est-à-dire toujours garder quand même un niveau de qualité, comme la vie de Brian. La vie de Brian n'est pas irrévérence silencieux vis-à-vis, mais en fait ils prennent des situations comme à un moment Jésus parle au loin comme ça et les types sont là ce qui est logique, c'est-à-dire qu'on n'entend pas, je veux dire on n'a pas des écouteurs et le type dit qu'est-ce qu'il a dit, heureux les pauvres, et fait mais non, et les mecs parlent au loin et c'est ça qui est drôle, c'est ça l'intelligence de la situation, c'est que ça pourrait être dans n'importe quelle autre situation un politicien et les mecs sont au fond, ils entendent mal et ils interprètent tout ce qui est dit quoi. Donc voilà.
Kev Adams qui était présent à ce micro nous expliquait qu'il n'avait pas la carte et malgré les millions d'entrées qu'il pouvait faire au cinéma, il serait toujours écarté parce que c'est le rigolo, c'est le charlot, il a pas le crédit. Est-ce que vous avez eu le sentiment de passer du rigolo, du blagueur de Canal et de passer à un moment donné de l'autre côté, c'est-à-dire crédible dans des rôles qui ne sont pas faits pour être drôles? Vous avez senti ce virage dans votre carrière?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu la chance d'avoir extension du domaine de la lutte et aussi d'avoir une autre vie par rapport à ça. Et après, j'ai utilisé, si vous voulez, aussi le fait d'avoir des cartons avec des comédies pour pouvoir, à chaque fois que je faisais une comédie, je faisais deux films d'auteur parce que je savais que c'était important d'équilibrer la chose.
C'est exactement ce qui nous a expliqué à ce micro aussi. En 2007, justement, José, vous écoutiez.
Je tiens à dire que c'est pas en 2007 que je l'écoutais, mais vous m'avez demandé à l'époque où je tournais un film, et en fait ça me rappelle.
C'est pas la bonne année.
Mais non, parce que The Blaze c'est vraiment tout moderne, donc voilà. Mais en fait c'était parce que vous me parliez d'Adamsberg, et je me disais que j'aimais bien Blaze parce qu'il y a un univers
là. Voilà.
Ouais, c'est un.
Vous avez fait votre BO, quoi.
Oui.
Vous êtes Adamsberg, en effet, le commissaire, le fameux commissaire de Fred Vargas dans Pars vite et reviens tard, réalisé par Régis Varnier. On parlait justement de cette alternance entre des films plus populaires, des films avec une signature un petit peu plus auteur, en tout cas. Là aussi, vous incarnez un personnage qui est assez sombre, en réalité. Ça tranche complètement avec la personnalité qu'on a de l'image qu'on a de vous, en fait.
Oui, mais j'avais déjà fait pas mal de choses comme ça. J'avais eu la chance de tourner un film que j'adore, mais qui est pratiquement pas connu, qui s'appelle Le Septième Jour de Carlos Saura aussi, qui sont des films assez durs et intenses. C'est pour ça que j'adorais travailler en Espagne aussi. J'avais fait Gal, Extension du domaine de la lutte, La Boîte Noire, qui était très
beau. Sa Majesté Minor. Est-ce qu'on peut parler de ce film?
Vous parlez d'un petit moment, évidemment, c'est un petit crush, hein.
Alors.
J'ai beaucoup souffert là-bas, j'ai connu l'amour avec Vincent Cassel. Enfin, parler d'une période bleue.
Un film de Jean-Jacques Hano, c'est ça?
Ouais.
Vous nous racontez un petit
un
peu
délire.
Écoutez,
c'est
vous incarnez
le film le plus extraordinaire que j'ai eu à tourner, le plus extrême aussi que j'ai eu à tourner, le plus gros bide que j'ai fait qu'on a fait aussi avec Jean-Jacques Hano, et en même temps c'est un de mes souvenirs les plus dingues. Je crois que un de ces quatre, je raconterai vraiment comment j'ai dû vivre ce truc là.
Vous êtes un personnage mi-homme mi-cochon, faut le dire quand même. Dans
oui,
le film.
Bon, on l'est tous, hein. Non.
je sais pas.
Hein, n'est-ce pas?
Morgan.
En train de rédiger un truc pour demain.
Pitchez-nous en deux phrases, quoi. Oui, film.
Alors ça se passe dans une île en plein milieu de la Grèce, en plein milieu de l'océan, et il y a un minor qui vit avec les cochons parce qu'en fait il a été amené là par une déesse Aphrodite qu'on a retrouvée dans un cercueil, et on l'a jeté aux cochons, et en fait à un moment il se réveille, il commence à parler alors qu'il était il vivait avec une truite de 300 kilos et il devient roi de...
Film écrit sous acide.
Non, film écrit, je veux dire un truc, c'est une histoire dingue. Gérard Brach,
c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Ah bon?
Et j'ai connu le gars. Non, mais Gérard Brach, qui était le grand auteur de Polanski, qui a écrit des films admirables, a passé 15 ans à écrire cette histoire. Il était passionné de Grèce antique,
de mythologie,
et donc il a écrit cette histoire pendant 15 ans. Et il a écrit, en plus, il avait commencé à le faire quand j'étais à nulle part ailleurs, et son fils m'avait dit, mon père est en train d'écrire une histoire pour toi, et tu l'auras un de ces quatre. Et je l'ai eu 15 ans plus tard, et puis physiquement, je vais vous dire, c'est juste dément. Un de ces quatre, je raconterai vraiment toute l'histoire, mais être à poil, juste pieds nus, sur de la rocaille, avec une truite de 300 kilos, des cailloux qui vous tombent dessus, non mais ça a été absolument dément de survivre à ça.
Vous avez encore l'œil qui brille.
Forcément, parce que bon, bah, elle là-bas, moi ici, en plus elle n'écrit pas.
Bon. Une petite larme là, une petite larme.
Et je vous dis, cette scène magique avec Vincent Cassel, qui est toujours là pour nous donner des bons conseils. Voilà. Donc on a ri, je crois que le premier jour on a ri, on a une scène de sodomie absolument démente.
Et on veut voir ce film maintenant.
Il faut revoir pour la scène.
Il avait des pieds, enfin c'est...
Ah, c'était un bouc,
c'était un sabot.
Ah bah c'est un satyre.
C'est ça, c'est ça.
Et
c'est
il m'explique, mais on a pris des crises de rire monumentales.
Reparlons de Totem, où on rit moins, on va dire, beaucoup de suspense et d'amour. Nils Schneider nous a rejoint. Bonjour Nils et merci de venir à ce micro, ne serait-ce que 3 minutes, mais c'est gentil en tout cas.
Je suis vraiment désolé, j'étais pas au courant.
C'est pas vrai.
Je te promets, j'étais pas au courant.
Un espion, mon kilo,
mais ça va aller.
Voilà. Mais on va parler de bonnes choses.
On est d'accord. Pour un espion, ça manque d'informations.
Mais lui, le pauvre, est justement, on le malmène.
C'est
parce qu'on lui donne pas toutes les infos et on l'envoie au charbon.
Encore
c'est
une
vrai.
Fois.
Exact. Voilà. C'est pas grave. C'est le bon camarade, José.
C'est
le bon
camarade. C'est à cause de moi.
Vous préparez notre campagne.
On va continuer d'en parler avec Isabelle Davion, qui est historienne. Bonjour et merci de venir à ce micro. Vous êtes maîtresse de conférence à la Sorbonne en histoire contemporaine des pays germaniques et de l'Europe centre-orientale. Chercheuse au service historique de la défense. Quelle définition donner de la guerre froide et d'où vient l'expression ?
Alors l'expression, elle a été employée la première fois par George Orwell en 1945, mais ça désignait la course aux armements nucléaires, en fait une paix qui n'est pas une paix. Et elle a été popularisée dans le sens qu'on connaît aujourd'hui par le journaliste américain Walter Lippmann. Et donc ça désigne, dès 1947, cet état de tension permanente entre les États-Unis et l'URSS et leurs alliés.
Ça peut péter à n'importe quel moment.
Alors, sous-entendu, ce sont des conflits très durs, mais qui restent toujours... juste en dessous de l'affrontement militaire direct. Donc la guerre froide, c'est un combat qui se fait dans tous les domaines, scientifiques comme dans la série, diplomatique, économique, idéologique surtout, mais il n'y a jamais d'affrontement direct entre les États-Unis et l'Union soviétique. S'il y a affrontement, c'est par alliés interposés.
Il y a eu des faits marquants de cette guerre froide. Il y a eu 3-4 événements qu'on ne peut pas oublier de l'histoire.
Plus énormément, mais justement...
Il y en avait 3.
Il y a Cuba.
Alors il y a Cuba en 62, la crise de Cuba de 62, où on dit que le monde est au bord du gouffre. Ouais. Alors que juste avant, il y a eu une crise encore plus grave, à mon sens, d'un point de vue nucléaire, qui était la crise de Berlin, qui s'est soldée par la construction du mur, mais qui en fait a vraiment failli faire péter la planète. Mais j'aimerais bien aussi quand même citer la guerre de Corée qui a éclaté en 1960. 50 et où les combats durent jusqu'en 53 parce que elle vient un petit peu nuancer cette notion de guerre froide parce que la guerre de Corée c'est 2 millions de morts. Alors certes c'est pas des Européens donc c'est un peu moins grave sans doute guerre elle a pas été froide pour tout le monde quand même.
Et ce que l'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire espions, ces Roméo, c'est cette manière d'aller chercher des anonymes ou des civils j'ai envie de dire pour infiltrer la vie privée de certaines personnes intéressantes pour obtenir des informations. Ça s'est vraiment passé comme ça ?
Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. La guerre froide, c'est le nouvel âge d'or de l'espionnage. Parce qu'il faut voir que c'est une guerre d'idées, c'est une guerre d'influence. En fait, les crises de guerre froide sont une espèce de partie d'échec. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'adversaire. Et donc pour ça, il faut connaître ses intentions. Et pour connaître ses intentions, il faut espionner. Il n'y a pas de doute. Donc tous ces espions, qu'ils soient d'ailleurs agents dormants ou agents actifs, ce sont des combattants à leur propre niveau. L'espionnage a toujours existé, si je puis dire. Et continue d'exister. Mais avec la guerre froide, ça atteint une incandescence totale parce que il y a l'espionnage militaire, mais qui a toujours eu. Il y a l'espionnage diplomatique pour donc justement connaître les intentions du camp adverse. Et puis il y a l'espionnage économique qui devient dans le fond très lui-même militaire quand il s'agit, comme dans la série, d'aller chercher des techniques nucléaires.
On parle beaucoup de fuite des cerveaux d'information de l'Est vers l'Ouest. Est-ce que l'inverse existait dans la même proportion ou
alors moins. L'inverse a existé dans des proportions moindres parce que disons que le niveau de vie proposé à l'Est faisait moins rêver, mais oui ça existait pour des raisons je dirais d'idéologiques.
C'est passionnant, en tout cas. Vous avez pu jeter un œil sur quelques images.
Ah, mais j'ai regardé tous les épisodes. J'ai eu des devoirs plus ingrats que de regarder José Garcia et Nils Schneider. Je fais une thèse pendant 5 ans, donc ça, c'était vraiment super. Vous m'appelez quand vous voulez.
Est-ce que tout est crédible?
Et vous,
tout est très crédible. Ah, c'est vraiment magnifique de ce point de vue-ci aussi, oui.
Et on vous appellera volontiers parce que c'est passionnant de vous écouter, en tout cas, nous raconter ces histoires. Merci, Isabelle Davion.
Je vous en prie.
Je rappelle, chercheuse associée au service historique de la défense. Et voici Tom Villa. Les prix de la semaine.
beaucoup.
Cette semaine, on va décerner le prix de la boulette de la semaine. Et dans cette catégorie, les noms et sons. Ah. Premier nommé, une femme qui a porté plainte pour agression sexuelle. Quelques heures plus tard, un policier la rappelle, laisse un message, il raccroche mal et la traite de grosse pute. Suite à ça, Mediapart révèle le message du répondeur. Le policier est mis à pied directement. C'est la deuxième affaire que révèle Mediapart à cause d'un téléphone qui a été mal raccroché. La première, c'était Jérôme Cahuzac. En gros, si tous les gens qui font des conneries font bien attention à raccrocher leur téléphone après un message, Mediapart, ça devient le journal de Mickey. Deuxième nommé, Nicolas Bay, qui vient de rejoindre Éric Zemmour après avoir été suspendu de son rôle de porte-parole du Rassemblement National parce qu'il était soupçonné d'avoir espionné pour le compte de la campagne d'Éric Zemmour. Franchement, c'est pas le bureau des légendes ou Totem non plus. Parce qu'un type qui aime pas les immigrés et qui joue le rôle d'un mec qui aime pas les immigrés, bah ça va, c'est pas un exploit non plus. Hein, franchement. Troisième et dernier nommé, selon une étude, 95% des Français ne font pas assez de sport et cela amène des risques pour leur santé. Alors selon cette étude, il faudrait faire une demi-heure de vélo 5 fois par semaine, de la natation 1 à 2 fois par semaine et 2 à 3 fois par semaine de la gym ou du yoga. Bon, en gros, pour être en bonne santé, donc faut être chômeur avec du fric ou sportif pro. Voilà.
Donc, le policier qui a mal raccroché, non ?
Exactement. Ah, ouais. Le grand gagnant, c'est effectivement la faute professionnelle du policier. Alors, c'est vrai que dit comme ça, le flic qui traite une victime de grosse pute, on dirait un titre de sketch de Jean-Marie Bigard. Alors, je refais quand même peut-être l'histoire. Hein.
Ouais, il vaut mieux.
Une femme donc vient porter plainte pour agression sexuelle, ensuite elle rentre chez elle, un policier la rappelle, tombe sur sa messagerie et il lui laisse un message. Ensuite, il raccroche mal le téléphone et voici le message, 2 points, ouvrez les guillemets. Putain, elle refuse la confrontation, en plus la pute. En fait, c'était juste pour lui, l'agresseur entre parenthèses, pour lui casser les couilles, j'en suis sûr. Déjà, elle fout une mandale au mec. Après, elle va vouloir une confrontation histoire de lui péter la gueule encore plus sur l'audition. Putain, grosse pute. Donc là, il y a peu de place au doute hein, sur l'intention du policier. Autant il y a ah putain il me casse les couilles, tu peux mettre ça sur le dos de l'imprimante, mais là on est quand même sur un gros Gilles de la Tourette. Alors première pensée évidemment pour la plaignante et évidemment grosse pensée aussi pour les policiers parce que déjà que la profession avait pas la meilleure image en ce moment hein, c'est là on se rend compte qu'ils respectent pas les gens. Ils sont incapables de raccrocher en plus directement un téléphone. Donc en plus de passer pour des méchants, ils passent pour des idiots. Après, c'est vrai que c'est pas évident de bien raccrocher deux petits cercles dans un grand cercle. C'est vrai que des fois... Et puis imaginez la tête de la plaignante quand elle a vu que la police lui avait laissé un message de 3 minutes. Ça, déjà... Qui que ce soit qui te laisse un message de 3 minutes, police, pas police, c'est rarement bon signe. Soit il y a un truc très chiant à dire et il n'aura pas le courage de te le dire en direct, soit il n'a pas raccroché après son message de 30 secondes. Et le pire, c'est quand le mec est en voiture et qu'il écoute Maître Gims, Nagui, franchement, c'est l'enfer. Voilà. Bref, un message de 3 minutes, c'est quand même sacrément long. Là, vous voyez, ça fait, je sais pas, 2 minutes, 2 minutes 15, et encore, j'ai mis un jiggle, 3 bouts de chanson. Voilà. Et là, la pauvre plaignante, à ce moment-là, elle est seulement à son deuxième grosse pute. Hein. Donc là, la jeune femme a saisi la police, des polices, l'IGPN, a déposé plainte. En ce moment, voilà, elle espère que sa plainte va aboutir hein, et surtout que l'IGPN ne lui laissera pas de message sur son portable. Alors, je devance, mais il va y avoir des gens qui vont dire, tu te rends compte, s'il avait bien raccroché, ça serait pas arrivé. Ouais, je vous jure, ça peut arriver. C'est... Ah bah, la semaine dernière, j'ai fait une chronique sur Kurt Zuma, c'est le joueur de foot qui a tapé son chat.
Oui.
Et il y avait des commentaires sur Internet, je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont mis quand même, surtout si on tape son chien ou son chat, on ne se filme pas en train de le faire.
Voilà. Faites-le sans filmer.
Exactement. Ouais, donc voilà. Bravo. Alors, le policier a dit que la plaignante avait porté plainte juste pour citer, casser les couilles, voilà, du dit agresseur. Le problème, c'est que les policiers, je pense qu'ils n'ont jamais porté plainte. Ou alors c'est comme quand un employé Disney va en RTT à Disney pour faire Space Mountain, il y a une sorte, il passe par les fast-pass, il montre un badge, il fait un clin d'œil, il attend à peine 5 minutes. Moi j'ai récemment déposé une main courante et c'était pas pour une agression sexuelle et je suis pas une femme. Franchement, je déconseille de vouloir déposer une plainte avec moins de 30% de batterie. Franchement, sur le papier, je crois que c'est moins d'aller aux urgences que de déposer une plainte.
C'est fou.
Donc t'arrives devant le commissariat. Moi, il y avait deux jeunes policiers très gentils qui m'ont demandé pourquoi je voulais rentrer. J'ai expliqué. Je rentre, je tombe sur une collègue à eux et j'explique pourquoi je viens déposer une main courante et elle m'explique que ça vaut pas la peine. Et elle me dit de partir. Donc je ressors, donc assez surpris, les deux jeunes policiers me voient, ils me font déjà, je dis oui, parce qu'elle a pas voulu prendre ma plainte, et là l'un des deux me dit c'est pas normal, et c'est lui qui a pris ma déposition. Je vous jure que c'est vrai. Résultat de l'opération, 2h30 et sans forcer. Donc voilà, je crois que quand il y a une femme qui vient d'être agressée, enfin qui dit de se faire agresser et qui dit tiens attends j'ai rien à faire, j'ai envie d'aller passer 3 heures dans une salle d'attente dégueulasse avec un sol qui colle, entouré de gens en larmes ou très énervés, ouais j'ai envie d'aller porter plainte juste pour casser les couilles. Non voilà. De son côté, il y a Gérald Darmanin qui a dit souhaiter été la révocation du policier qui a dit, je cite Gérald Darmanin, qui a sali non seulement toutes les femmes qui essaient de déposer plainte, mais il a sali aussi, il a craché sur l'uniforme de la République de ses 250 000 autres collègues policiers et gendarmes. Suite de l'affaire, bah, au prochain coup de fil.
Merci, Tabitha.
Et comme tu es sur scène tous les samedis à l'Européen à Paris.
Et au commissariat tous les dimanches.
ça vous est déjà arrivé d'être en communication avec quelqu'un qui ne raccroche pas, qui continue de parler et vous vous dites est-ce que j'écoute ou pas ? Ça vous est jamais arrivé
les appels de poche tout le temps.
C'est fréquent.
Ah, il y a les pocket calls.
Il y a les appels de poche qui sont super.
Il y a appels
aussi.
De poche. Ouais. Appel
pocket
de poche.
Call.
J'aime bien ça.
Moi, je voudrais juste faire un big up à un gros enfoiré d'une maison de disques que j'avais eu au téléphone et le mec croit avoir accroché avec moi. Et me démonte ma race, mais pendant 5 minutes. Et franchement, c'est moi qui ai raccroché à la fin. Je dis, j'ai plus envie d'écouter ce que le mec disait. Mais c'était tellement drôle de le recroiser après en disant, hey, salut, avec un grand sourire. Comment ça va? Comment ça va, Tanguy Pasturo?
Ça va.
C'était pas toi.
Tu fais la même chose avec moi?
De quoi tu parles aujourd'hui?
Eh ben, je veux parler des Jeux de Pékin. Je suis contre.
C'est court, c'est bref. Nils Schneider, enfin, et José Garcia. Alors José, tu peux partir maintenant, peut-être c'est un relais. Vous allez rester avec nous, sympa, jusqu'à 12h30 pour parler de Totem sur Prime Vidéo. À suivre également Leïla Kadouroudadi, Daniel Morin et tout, évidemment, nos chroniqueurs. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadouroudadi, Morgane Gadinan, Alexis Le Rossignol, Tom Villa, Tanguy Bassureau, Daniel Morin, nos invités, Nils Schneider et José Garcia. Pépé. Avec cette série Totem, qui est à la fois un film d'espionnage, de reconstitution, brillamment réussi, brillamment écrit, réalisé et interprété, avec donc nos deux invités, en plus Vera Kolesnikova, Lambert Wilson, Anna Girardot, Alexei Gouskov, Mikhaël Gorevoy, Suro Sugaipov. Sugaipov, pardon, et le tout réalisé par Jérôme Salle, Antoine Blossier et Frédéric Jardin. On disait tout à l'heure, Nice, que c'est, évidemment on est dans une série de suspense, de tension psychologique et aussi très romanesque avec cette rencontre faite avec cette jeune russe fille d'un chercheur que vous devez contacter.
Bah, c'est ça, c'est à la fois une série très spectaculaire, de suspense, et donc très romanesque, et à la fois une histoire d'amour. En tout cas, on ne sait pas si c'est une histoire d'amour, comme on n'est pas certain de la sincérité de...
Des deux, parce que... Ouais. Et c'est là où les personnages évoluent et où c'est fort, c'est-à-dire on peut se douter qu'au début, il y en a un des deux qui veut piéger l'autre en faisant croire à un jeu de séduction, et qui va se faire prendre à son propre jeu. Est-ce que l'autre va changer d'avis ou pas? Mais pour en revenir à votre personnage, il est dans une situation relativement... D'abord, c'est un passionné de l'espace. Il est extrêmement talentueux pour son jeune âge.
Il est mis de côté quand même.
Parce que son père
a
des casseroles vis-à-vis de l'espionnage, mais il a une vie de famille avec femme et enfant. Et
il est un peu dépassionné. Ouais. C'est un petit bonheur. C'est pas non plus la grande fête à la maison. Et puis c'est quelqu'un qui valorise pas forcément l'espionnage, qui de par son père qui perçoit l'espionnage comme un monde de trahison, de mensonge, et qui va finalement malgré lui presque aimer ça, quoi.
Et puis moi je voulais revenir aussi sur la beauté des décors de la reconstitution, parce que ça doit aussi aider des personnages, enfin des acteurs à jouer, d'être replongé comme ça vraiment dans les années 60-65 à l'est, enfin tout ça.
Comme tu dis, t'as vraiment l'impression d'y être, quoi. C'est-à-dire quand tu vois 500 figurants habillés comme dans les années 60 avec 50 bagnoles d'époque, l'hôtel qui a pas bougé depuis 65, t'as vraiment l'impression
d'y être.
Voiture
d'époque que vous conduisez d'ailleurs vous-même, petit Vénard, parce qu'il y a eu deux, trois voitures.
Petit Vénard, c'est pas évident.
On a une histoire avec les voitures.
Avec le coffre.
Les mecs qui...
c'est que les types, c'est quand même des Tchèques, des gars assez costauds et baraqués. Le mec, il venait à chaque fois avec la voiture. La première fois, on claquait une portière et le mec est sorti un peu énervé. Il nous dit,
doucement.
Vous allez doucement avec la portière. Et après, il y a eu un truc carrément avec un coffre et j'ai senti que le mec, il était rentré dans le rouge, mais alors grave. Et on devait sortir assez énervé. Je m'énervais et j'ai fermé le coffre parce que j'ai senti que la prochaine fois que je claquais son coffre, il me déglinguait. Et là, j'ai fermé le coffre, je m'énerve sur Nils. Je lui dis, allez, on y va. Et je fais clic, clic, doucement, le super costaud.
Je comprenais pas d'ailleurs quand j'ai vu la scène pourquoi vous embrassiez le coffre en plus avant de partir.
Oui, oui, non, je le touche tranquillement. Je vais me tirer de
garde. Un coup de police, un bisou.
Il peut y aller.
Le petit câlin.
Sur Prime Vidéo Totem, une série passionnante à voir avec nos deux invités, Nils Schneider et José Garcia. On en parle encore jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Ah, les Jeux de Pékin, quelle merde. Oh, pardon, je viens de dire ce que tout le monde disait avant qu'on gagne des médailles. Enfin, qu'on gagne. Que Quentin, Fillon, machin, là, gagne. Ça fait bizarre, d'ailleurs, Fillon et gagne dans la même phrase. Déjà, c'était pas passé loin, Fillon, en 2017, mais que voulez-vous? Lui et Pénélope ont créé le travail en distanciel 3 ans avant le Covid. Or, ce pays déteste les pionniers. Nous, ce qu'on aime, c'est le passé. On est persuadé qu'avant, c'était mieux. Même quelques mois avant. Parfois, en soirée, des gens vous disent, purée, Gérard Collomb. Ça, c'était un ministre de l'Intérieur. Puis vous retirez le masque à fourrure de la personne et vous réalisez qu'il s'agit de Gérard Collomb. Comme dans Scooby-Doo. Ensuite, il vous dit, oui, haha, c'est moi qui ai mis le petit Darmanin à ma place pour que le public me regrette. Bien joué, Scooby. Et vous vous dites, mais est-ce que Gérard Collomb partirait si loin dans le délire? Donc vous lui tirez sur le visage et c'est encore un masque. En dessous, il y a Ariel Dombal qui dit, bravo, Scooby. Par contre, pas la peine de me tirer dessus. Moi, je suis plus déjanté qu'une Peugeot 206 à l'atelier tuning. On est 25 là-dedans, mais ils sont tous dans ma tête. En France, même les assez jeunes sont nostalgiques. Tenez, prenez la tournée Back to Basic. C'est comme Star 80, mais pour les années 2000. On se dit, c'est dingue, quoi. Les années 2000, c'était hier. Et surtout, c'était atroce. Le World Trade Center, la crise des subprimes, Ségolène Royal en tunique bleue sur scène à Paris. Rien de bon ne s'est passé dans les années 2000. Michael Jackson est même mort. Conformément à sa volonté, il a été enterré sous une classe de CM1 de l'école Robert Desnos de Los Angeles. Et pourtant, les gens sont nostalgiques. La tournée Back to Basic, c'est 15 zéniths avec les L5, Larousseau, Yannick. Vous vous souvenez d'Yannick, ces soirées-là? Moi, j'écoutais ça en voiture. Ça faisait à gauche, à droite. Et il n'y avait pas de GPS. Donc, je suivais ces instructions-là. Une fois, je l'ai écouté en boucle, j'ai fait 70 fois le tour du pâté de maison. Le plus dur, c'était quand Yannick faisait en haut. Là, je disais à ma famille, allez tous dans le coffre, faut arriver à lever la bagnole. Bon, on s'amusait à l'époque, quoi. Il n'y avait pas Sandrine Rousseau pour gna gna gna, là, les énergies fossiles. Bon, hein, la tournée Back to Basic, il y a aussi Willie Denzey, Matt Houston, Nutty, vous vous souvenez de Nutty? Elle te rend dingue,
Je sais,
j'étais fait pour une carrière dans le ragga, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Bon. En fait, il manque juste dans cette tournée le groupe Tragédie, avec Eo, j'adorais ce truc. Par les paroles, je sais plus si c'est Boris Bergman ou Jean-Loup Dabadie, mais ça faisait. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que tu m'entends?
Eo!
Est-ce que tu me sens?
Eo!
Voilà, etc., etc. Bon, j'ai voulu un moment dans cette chronique qui ne me ressemble pas du tout.
Hein,
je m'ouvre à un humour plus grand public pour remplir moi aussi les zéniths. Hein, la tournée des centres culturels face à des profs à la retraite, c'est mignon, mais c'est pas avec ça que je vais me payer une villa sur la côte. Hein. J'ai 48 piges, vous êtes gentil, la vie avec, à la Verlaine. À ce qu'il est miche entre deux croûtes de pain, vous la gardez. Enfin, moi, je veux des piscines, du cash. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Inès Reich, qui a 29 ans, ait pu supporter la précarité, qui remplisse, quoi. Bon. Et là, vous me dites, tiens, Tanguy Pastureau ne devait-il pas, à la base, parler des JO de Pékin?
Eh
bien,
oui,
si. D'ailleurs, on me fait signe en régie que ça y est, le livre Guinness a appelé, j'ai le record de la plus longue intro du monde.
Hein,
vous passez deuxième, Nagui, avec votre question à Isabelle Huppert le 6 mai 2019, qui avait duré 14 minutes 21. Alors, on avait cru qu'Isabelle Huppert était morte d'ennui. En fait, non, elle avait juste sa tête de d'habitude. Oui, mais les JO de Pékin, hein, on est d'accord qu'il y a 15 jours, tout le monde les appelait les Jeux de la honte. Hein, neige 100% artificielle, régime dictatorial à qui on sert la soupe, génocide des Ouïghours. Ah, il fallait nous voir fiers, drapés dans nos beaux principes et nos hashtags. Mais depuis, on a eu des médailles et donc, eh ben, plus rien. Hein, juste des images de gens qui skient par la Chine, ce qui n'est même pas une contrepétrie. Hein. Voilà, elle s'éloigne, c'est tournée des zéniths, elle s'éloigne. Les Ouïghours, on s'en tape. À partir du moment où aux infos, le premier titre, c'est qu'on a cartonné au ski de boss, il faut dire les choses, nous ne sommes pas de belles personnes. Et je pense que Belzébuth a déjà pris rendez-vous pour attraper Patrick Montel par le slip, parce qu'il commande tranquillou les épreuves, comme si le truc se déroulait dans la Nièvre. Et la Coupe du Monde au Qatar, ça va faire pareil. Il n'y a pas une semaine qui passe sans tribune d'intellectuels actuellement qui parle du mondial de la honte. La presse anglaise dit qu'en 10 ans, sur les chantiers de construction des stades, sont morts 6500 ouvriers. Alors attention, la presse anglaise est sensationnaliste. Il y en a peut-être eu 6480. Bon. Et ça fait la même chose. On est là à dire, c'est horrible. Moi, je suis à deux doigts d'organiser une soirée de sensibilisation avec
avec BHL qui s'intitulerait Non au Qatar, ou avec Éric Zemmour qui s'intitulerait Ah bah voilà, encore des Arabes. Mais je sais qu'au premier coup de sifflet du premier match, on aura les chips sur les genoux, la zapette sur un autre genou et les 6500 morts, on les aura oubliés. Quand on dit que le sport, ça vide la tête, c'est vrai. Moi, je vais toujours prendre un footballeur avec moi. Johan Gourcuff, par exemple, bah, il a du temps. Comme ça, quand je raterai une chronique, il fera un tir cadré derrière moi et hop, les gens passeront à autre chose. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. C'est pourquoi je vais finir par ces mots. Touche-moi, je suis là. Et oh, 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 oh.
Merci.
Tanguy, on se retrouve la semaine prochaine à Montpellier, Sanary-sur-Mer et Marseille.
Oui, on continue de parler de Totem avec Niels Schneider et José Garcia. Un casting dense dans cette série, avec beaucoup de suspense, de psychologie, de réalisme. Quand une historienne de la Sorbonne vient vous confirmer ici que tout est crédible, j'imagine que ça fait plaisir aussi à entendre, de savoir qu'on est dans la justesse de la reconstitution, même si c'est pas à partir de faits réels, mais enfin c'est extrêmement documenté et structuré. Quelle est pour vous d'ailleurs la qualité principale, José Garcia, de Totem ?
La qualité principale, c'est de l'avoir fait avec le savoir-faire que l'on a en France et en Europe. C'est-à-dire le mélange d'acteurs qui viennent de plusieurs pays, parce qu'on se confronte vraiment dans des langages différents, et le fait d'avoir été dans le réalisme. C'est-à-dire que les espions ne sont pas des gens avec des tonnes de gadgets. Ce sont surtout des gens qui viennent séduire, contraindre, pousser, peut-être même torturer, mais en fait la torture elle est beaucoup... Elle est psychologique, elle est très dure. Une fois que vous êtes dans cet engrenage-là, au départ, vous commencez pour des bonnes raisons, et très vite, vous êtes manipulé, vous êtes éreinté par des gens qui vont utiliser toute votre tendresse et votre amour pour vous...
À des fins qui vont les servir, ouais. C'est ça, et leur apporter des informations, de l'argent, j'imagine, mais c'est toujours un enjeu aussi financier dans cette histoire. Niels Schneider, qu'est-ce qui vous a plu, vous a attiré, qu'est-ce qui, même en tant que spectateur, qu'est-ce qui ferait que vous regarderiez cette série ?
Le jeu des acteurs.
vous avez raison de le dire, parce que
Je te remercie, Nagui.
Que ce soit vous, et on le sait déjà tous les deux, que vous êtes de brillants acteurs et de grands acteurs, mais tout le casting et des gens que l'on ne connaît pas et que l'on découvre est assez bluffant, justement de justesse. Ce qui est important aussi, d'avoir des sparring partners qui renvoient bien la balle, parce qu'on peut être très bon acteur si on est devant.
Avec José,
vous êtes éclaté.
On s'est éclaté, puis au début c'est pas évident de faire un film d'espionnage, quoi, parce que dans l'imaginaire on est français, on a tous Jean Dujardin en tête, c'est déjà c'est compliqué de se prendre au sérieux quand on joue un espion, parce qu'on a tout de suite OSS 117, et avec José Garcia tu pleures,
quel œil qui frise en permanence,
quel œil qui frise et tu pleures de rire, et il peut te tenir comme ça pendant des heures.
Je suis pas d'accord. Oui il a l'œil qui frise,
et là dans la série il est merveilleux de densité et d'humanité.
Il fait peur. Il y a des moments.
Non, mais on était tous très très impliqués. C'est-à-dire que d'entrée, on se levait le matin et en plus avec les acteurs russes en face qui sont des acteurs de théâtre incroyables, Lambert Wilson qui était hyper concentré. Ouais. Enfin, je veux dire, la chance c'est qu'on était il y avait que des acteurs en tout cas qui venaient pour jouer et être vraiment à l'extrême de ce qu'ils pouvaient faire. Et je dois dire que nous tous les matins, on se creusait la tête pour savoir comment on allait tourner une scène, comment on allait la mettre à l'envers. Et les premiers temps, on était à moins 20 degrés dans des endroits. D'ailleurs, ça se voit pas, c'est énervant parce qu'on est en train de vraiment
de geler. 8 épisodes d'une heure, ça prend combien de temps à tourner ?
6 mois, 7 mois.
6 mois, ouais. Ah ouais, c'est carrément un morceau de votre vie, quoi, dans cette histoire. Ouais.
Bah oui, et puis c'est vraiment, on se retrouvait, on était tous dans le même hôtel et on se retrouvait le soir après le tournage, on tournait 15 heures par jour. Le soir, on se retrouvait à Prague.
Isolé. Avec des gens qui restaient dans leur chambre pendant 15 jours. Après, on avait des sas de sécurité pour pouvoir rentrer, avec 3 niveaux de sas de sécurité pour rentrer dans un endroit où il y avait la Stasi qui vous attendait.
Pas de journée. Au bout d'un mois, je dois dire que là, on a commencé à vraiment accélérer le rythme.
Pas de resto, pas de folle soirée en boîte de nuit.
Non, rien. La ville de Prague complètement
alors que
fermée.
Vous m'avez dit avoir signé pour tourner à Prague pour ces bonnes raisons-là. D'ailleurs, pour la vie d'aventure.
Je regarde d'abord où on tourne. Hein. On est tourné dans des endroits un peu désertifiés.
Mulhouse. Non,
c'est là, soit vraiment au point.
C'est comme Chabrol qui repérait en fonction des restos du coin.
Alors nous, on n'en est pas là. Mais je dois dire que dès qu'on a regardé, tout de suite, j'ai appelé un sourcier. On a regardé un petit peu s'il y avait des. Dès qu'il y a eu une barre. Non, mais franchement, les premiers temps ont été très impressionnants. Psychologiquement, on a tenu comme ça pendant un mois. On était très isolés. chacun dans sa chambre, à manger chacun dans sa chambre et tout, après avec les SAS, et puis après avec les problèmes de cluster, c'est-à-dire que le Marc Génie, qui était directeur de production, a jonglé, plus tous les acteurs qui arrivaient d'Angleterre, de Russie, qui avaient des quarantaines, donc pour pouvoir tourner une journée ou deux jours avec nous, il y avait des gens qui restaient 10 jours dans une chambre d'hôtel, à se faire servir dedans, on leur faisait pas leur chambre ni rien, ils mangeaient là, ils sortaient de là, je peux vous dire qu'ils étaient déjà bien conditionnés. Il y a le fameux Sourot qui, le pauvre, a passé plus de temps dans sa chambre que voilà,
que devant la caméra.
Voilà, et dès qu'il descendait, il arrivait dans une salle de torture ou dans voilà, donc franchement, il y a eu du mental.
Acteur studio.
Ah ouais, là il y a eu du mental, franchement, ça a été costaud.
Totem, c'est sur Prime Vidéo et d'autres événements, oui. Leïla Cadeau Boudadi en culture.
On va parler de Rihanna, pardon, comment comment vient-elle de se faire remarquer? Qu'a-t-elle fait récemment?
Une compagnie aérienne.
Un enfant.
Non, un enfant, c'est vrai, mais c'est pas ça.
Comment elle s'est fait remarquer?
Ouais, elle vient de faire quelque chose d'assez extraordinaire.
Elle a donné de l'argent.
Une photo dénudée.
Elle a donné de l'argent. Elle a donné de l'argent.
À son pays.
Entre autres, à des associations, mais la somme à peu près, vous auriez une idée?
560 000 dollars.
100 millions de dollars.
Non,
calmez-vous. Non, 10 millions de dollars?
Un petit peu plus.
14.
15 millions de dollars.
Voilà. J'adore jouer au juste prix.
Associations implantées aux États-Unis et dans les Caraïbes. Est-ce que vous avez une petite rallonge. Est-ce que vous avez des combats, des associations que vous soutenez? Est-ce que vous êtes impliqué en particulier?
Ou parrain?
Toi, je sais que tu as des combats.
Moi, j'ai une association qui s'appelle Rêve de Gosse, donc je suis un des parrains, avec Véronique Jeannot et Bernard Hinault. Et en fait, c'est des enfants, c'est pour combattre la différence. Voilà, pour prendre des enfants qui sont dans des écoles, qui sont des enfants ordinaires et qui rencontrent des enfants extraordinaires dans des centres et qu'ils apprennent ce qu'est le handicap. Et la finalité, c'est que ce sont des pilotes qui font ça. Et en fait, on leur fait faire des baptêmes de l'air.
Oui, d'accord.
Et ce qui est très émouvant, si vous voulez, là-dedans, c'est que ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à... Enfin, la gravité les entoure.
Oui.
Et quand on les emmène dans le ciel, on a des moments absolument déments.
Et vous les accompagnez de temps en temps?
Et on les accompagne, on les rencontre, ils ont des projets communs, ils se rencontrent tout le long de l'année pour faire des projets, pour dessiner, pour écrire. Et en fait, moi je les vois, les mômes ils sortent comme ça, ils arrivent avec plein de super pouvoirs, et puis ils tombent sur une petite fille qui met 2 heures à découper un truc, et tout d'un coup, tout se réinstalle, ils approchent et ils commencent à les aider, et ils comprennent que l'autre... Ben voilà, et après, il se lie d'amitié, de tendresse. C'est très, très émouvant.
On imagine qu'avec votre notoriété, vous avez dû être beaucoup sollicité pour plein de causes qui forcément trouvaient un écho dans votre cœur. Mais comment choisir? Comment dire non à une cause qui vous touche?
Bah, c'est compliqué, mais on ne peut pas être partout. Malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations tous les jours pour des enfants. On a une amie qui s'appelle Katinka, qui a son petit-fils. Enfin, tout le monde l'a retweeté et tout ça. Elle est la présidente de AQO Énergie, dont je suis le parrain, qui est un truc pour l'écologie. Et elle a besoin de plaquettes pour un don de plaquettes pour son fils. Voilà.
On va rappeler que les plaquettes, c'est rien à donner.
Non, c'est rien.
C'est rien à donner. Mais... C'est-à-dire, on s'allonge à 1 quart d'heure, 20 minutes, on prend notre sang, ça rentre dans une machine, ça tourne à toute vitesse, les plaquettes sont prises et on nous réinjecte notre propre sang. Et on refabriquera ces plaquettes, c'est la magie de la nature.
Enfin, quand même, c'est nos plaquettes.
Non, mais c'est rien.
Non,
c'est
pas tes plaques.
Faut le faire. Il faut le faire. Et vous, Nils, y a-t-il un combat que vous.
Une association, une cause?
Non, pas d'association après.
SOS Ponctualité?
Bravo,
c'est moche.
Non, mais quand j'entends José, évidemment que...
Moi, il a fallu des années pour que je trouve la vraie association, pour pouvoir m'impliquer correctement.
Ça demande vraiment du temps, il faut l'avoir.
Mais je suis totalement d'accord avec vous. Dire que je suis parrain, d'une association pour ne rien faire et juste communiquer en disant oui, je suis parrain.
Exactement, c'est pour ça. Et souvent, c'est la sollicitation, mais c'était souvent... Je voulais pas que ce soit ça, justement, simplement...
Donc autant ne rien faire.
Voilà.
Il faut attendre le temps, justement, d'avoir du temps de libre pour pouvoir être présent. Il faut pouvoir vraiment mettre les mains dans
le cambouis
non pas dans le cambouis mais dans l'association être avec eux et pouvoir les aider tout au long de l'année et ça demande une implication, c'est pour ça que moi je fais attention, je n'ai qu'une association, c'est Rêve de Gosse et c'est tout.
Vous avez parlé pour l'écologie?
Oui, mais là je suis parrain de la fondation pour l'écologie et puis l'association donne des panneaux solaires par exemple dans des écoles au Maroc, il y a Oratica aussi, en fait il y a plein de gens comme ça, mais il y a beaucoup de parrains et de marraines à l'intérieur qui eux font un travail travail ponctuel. Moi, je suis là pour, voilà, pour les aider, pour donner des coups de boost.
Parfait.
Autre question. On va parler du prochain Batman qui va sortir en mars.
Ah ouais, c'est là.
Ah oui, le 2 mars.
Bah, c'est dans 10 jours.
Il détient un record. Déjà un record. Lequel ?
Ah, du film le plus long.
Ouais, bravo. C'est vrai, le film le plus long.
Ah, je croyais le film le plus dark.
Non, 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 le plus long.
3h, c'est 2h.
2h47.
Mais il y a des films plus longs que ça ?
Non, mais pas la série.
Pour un Batman.
2h47, avec le générique. 2h55, 8 minutes de générique.
Non, mais non.
Eh oui, c'est pour ça que
Superman, il est très lent, le générique.
Un générique de dingue. Le vieux Superman avait un générique, ça durait 4 heures quand je l'ai regardé la dernière fois. On passait une demi-heure à attendre que ça arrive et tout d'un coup le mec arrive. Mais c'est impressionnant, c'est vrai.
Est-ce que la durée d'un film, ça peut être rédhibitoire pour aller le voir en salle pour vous ? Est-ce qu'un film annoncé à plus de 3 heures ou plus de 2h30, est-ce qu'un spectacle de plus de 2h30, vous vous dites « Ah, je suis peut-être pas le karma là ce soir ».
Au cinéma, non. En revanche, quand
je suis chez moi... La vraie question, c'est comment va votre prostate, quoi. C'est ça, quoi.
Ça va. Est-ce que vous tenez... pas trop la prostate. Non, après, on peut être complètement happé.
Ouais.
Et après, de temps en temps, je vous avouerai qu'il y a une bonne demi-heure de trop, quelquefois.
Souvent, quand même.
Après, on peut s'emmerder sur un film d'une heure et demie et Titanic dure 3 heures.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, quoi. Vous pouvez rester complètement happé, vous n'avez pas vu le temps passer, et puis vous pouvez rester sur un film... Où la première partie est extraordinaire, au bout d'une heure et demie, vous dites bah, c'est génial, et derrière, ça...
Bah, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'écriture et la force de la série de Totem, c'est-à-dire qu'il faut à tout moment qu'il se passe quelque chose, toutes les 3-4 minutes, sinon on décroche.
On n'est pas obligé, parce qu'il peut... y a des films qui sont à l'antithèse de ça, et je trouve ça extraordinaire aussi, des contre-rythmes. Je veux dire, il y avait un film extraordinaire justement à la période où il y avait, vous savez, avec... c'est les frères Cohen qui ont fait ce film, où un type part avec son tracteur, c'était époque où dans le monde il y avait que des films ultra ultra rapides, ultra bourrés d'action, et le mec partait aux États-Unis, c'était un vieux gars qui partait voir son frère avec une tondeuse.
Et le film est magnifique. Mais non, c'est pas Cohen.
C'est David Lynch.
Oui, David Lynch.
David Lynch. Ouais. Et je trouvais ça extraordinaire de battre. Et on s'emmerde jamais. Et c'est d'une beauté remarquable.
Donc, mais je parlais pour les séries. Les séries, elles, ne peuvent pas se donner ce luxe-là de casser le tempo.
Je sais pas.
Ah bon?
Je sais pas. J'ai pas de série en tête, mais j'en ai vu certaines.
Même dans Breaking Bad, il y a tout un épisode sur une mouche, quoi. Donc, je pense que si une bonne série, on peut se permettre
Le film dont vous cherchez le titre, c'est Une histoire vraie.
Une histoire vraie.
Merci. Ça s'appelle Totem. Donc, c'est sur Prime Video. Je sais plus parce que c'est à partir du 18 février.
Ouais, c'est vendredi.
Voilà.
Bah, c'est donc ce soir.
C'est
aujourd'hui,
non? Non, c'est ça.
C'est ce soir.
Exactement.
Le 18, exactement.
Ça passe
à une vitesse. On est intemporel.
Ah, vivement les vacances de juin. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Mais si vous voulez, mon bon.
Déjà, tu présentes des excuses à Nils pour la vanne que t'as faite.
Oui, désolé pour cette vanne. Oh là là, un petit peu facile et méchante à la fois. Désolé. Désolé pour les Pedro, les Juan, les Luis, les Pepito et tous les Espagnols qui, selon José Garcia, n'ont pas le droit d'aller dans les bars. Il l'a dit, c'est réservé aux Pepe et aux Manolo. Mais c'est ça, la grande Espagne, l'Espagne de Franco. Moi, je l'aime bien, cette Espagne. Il y a des valeurs, comme dit Nagui. Désolé pour le progressisme, l'évolution du quotidien des femmes, l'égalité des êtres. Bref, toutes les valeurs contre lesquelles se bat José Garcia. Oh, vous savez, on n'est pas loin de ce que pense Leïla Kadour Boudadi hors antenne.
Oui.
Elle aime que le poppers, la vodka et l'échangisme. C'est tout. Désolé pour Madame Laure Rossignol, qui on l'a découvert ce matin à passer une Saint-Valentin. Savant mélange de glauquerie, de gênance, de pizza froide, de rose trop chère. C'est ça, l'élégance 2022. C'est le post-moderne, c'est la décroissance, le minimalisme, la loose. Désolé pour José Garcia qui avait presque oublié le tournage baroque de Sa Majesté Minor, mais c'était sans compter sur Leïla qui en a parlé, qui par la même occasion a réouvert une douloureuse cicatrice appelée Vincent Cassel.
Et puis moi j'ai présenté des excuses à Isabelle Davion qui était tout à l'heure avec nous, l'historienne, parce que j'ai oublié de préciser qu'elle avait publié Bataille, une histoire des grands mythes nationaux aux éditions Belin. Encore pardon de ne pas l'avoir fait en temps et en heure. Merci Nils Schneider, merci José Garcia, tout va bien. Pour cette série Totem sur Prime Video, la semaine prochaine c'est Leïla qui va conduire cette BO et qui recevra un joli casting. Dès lundi, Gérard Depardieu et Patrice Lecomte seront à ce micro.
C'est
mardi, donc Depardieu et...
Non, pas du tout.
Donc Agnès Jaoui, Jean Tellet, Gérard Depardieu, Patrice Lecomte, Clotilde M, Eric Orsena, tout ça, c'est le programme de la semaine prochaine.
Ça va être super.
Portez-vous bien cette BO. Merci, bonne journée.